Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, 6 heures avant minuit, nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Merci d'écouter l'émission d'info locale de Syllab en streaming, en DAB+, et de nouveau en FM. Oui, notre émetteur est réparé. Big up, Cesse et Timothée, qui sont allés jusqu'à Guingamp pour choper un nouvel émetteur. Et surtout à Timothée, qui a fait tout ça un jour de congé. On pense à toi. En attendant, bah, on profite pour vous dire merci, parce qu'on a eu plein de retours d'auditeurs et auditrices qui nous disaient « ça marche pas ». Donc bah, nous, ça nous permet de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Donc c'est plutôt un bon sondage médiamétrie. Hein. On l'a pris comme ça. Et puis n'hésitez pas à nous écouter en DAB+, parce que ça ne bug pas. Et puis bientôt, ce sera la seule et unique règle sur les ondes. Donc autant s'habituer. Tout de suite, le flash de Romain.
L'escalade continue entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde a mené 24 frappes au Pakistan cette nuit, selon la porte-parole de l'armée pakistanaise. New Delhi affirme avoir frappé des infrastructures terroristes. 26 civils sont décédés. Le Pakistan a immédiatement répliqué avec des tirs d'artillerie sur le territoire indien. 12 morts supplémentaires seraient à déplorer, selon l'armée indienne. L'offensive indienne est une réponse à l'attaque menée le 22 avril au Cachemire indien contre des touristes. La communauté internationale est inquiète. L'ONU a déclaré « le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire ». Qui sera le nouveau pape ? C'est aujourd'hui le début du C'est aujourd'hui le début du conclave. Les 133 cardinaux sont entrés dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape, plus de deux semaines après la mort du pape François. Chaque cardinal doit prêter serment. Ils doivent respecter les règles du conclave et garder le secret absolu. Les cardinaux voteront ensuite, une fois le premier jour et quatre fois les jours suivants. Le pape doit être élu aux deux tiers des voix du conclave. Si les cardinaux se mettent d'accord, une fumée blanche sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. Coca-Cola, accusé de greenwashing, prend les choses en main.
Ce mardi 6 mai, le géant Coca-Cola a annoncé changer l'étiquetage de ses bouteilles. Désormais, les consommateurs pourront y lire. Cette bouteille, à l'exception de l'étiquette et du bouchon, est fabriquée à partir de plastique 100% recyclé, à la place de 100% recyclable ou de bouteilles en plastique 100% recyclé. Un changement qui s'opère suite à des plaintes déposées par des associations, des ONG et le Bureau européen des unions de consommateurs en novembre 2023. Ils accusaient la marque d'user de pratiques commerciales trompeuses. En effet, la mention 100% recyclable n'informe pas les citoyens ni citoyennes que le recyclage dépend majoritairement des infrastructures nationales de tri. Or, dans l'Union européenne, ces infrastructures ne sont pas développées uniformément. Le nouveau libellé semble moins trompeur, plus véridique pour la régulation européenne. Le changement se fera au cours des prochains mois, a annoncé Coca-Cola. Toutefois, peut-être par manque de confiance, le Bureau européen des unions de consommateurs exprime « Nous attendons des autorités qu'elles vérifient si Coca-Cola passe de la parole aux actes et qu'elles prennent des mesures fortes le cas échéant. »
Reste à voir donc si la compagnie tiendra parole. Un autre conclave, c'est ainsi que Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, a nommé les réunions entre les délégations politiques en Nouvelle-Calédonie. Les discussions devaient se terminer dans la nuit, mais elles ont été prolongées aujourd'hui. Les délégations tenteraient de trouver un accord, a précisé le cabinet du ministre. Elle a précisé que les discussions étaient intenses mais respectueuses entre les délégations des loyalistes, de l'UNI, de le Calédonie Ensemble ou encore de l'Éveil Océanien. La prolongation des discussions laisse présager qu'un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures. Troisième journée de grève à la SNCF. Le trafic sur les rails reste perturbé aujourd'hui sur les trains régionaux, notamment en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Normandie. En Bretagne, aucune perturbation n'est à signaler pour le moment. Les grévistes réclament des mesures salariales et une meilleure anticipation des plannings. Des inquiétudes subsistent sur les trajets de ce week-end. Hier, Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, cherchait à rassurer les voyageurs et voyageuses. Les trains annulés seront remplacés ou remboursés gratuitement et un message doit être envoyé à l'avance pour prévenir du maintien ou non des trains réservés par chacun et chacune. La maire de Rennes interpelle à nouveau l'État. Après une nouvelle fusillade dans le quartier Villejean samedi dernier, Nathalie Appéré, la maire de Rennes, demande plus de moyens pour la sécurité à Rennes. Dans Ouest France, l'élu déclarait, je cite, « Il y a aujourd'hui une urgence et ça doit avancer vite. Je remue ciel et terre pour faire entendre que nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation extrêmement inquiétante et que les moyens de la police et de la justice doivent être renforcés. » Nathalie Appéré se dit également favorable à l'évolution des missions des policiers municipaux. Elle précise cependant qu'elle n'est pas favorable à l'armement de ces derniers et dernières. Le mois dernier, l'eurodéputé et juriste de formation Rima Hassan tenait une conférence à Rennes 2 aux côtés de Raphaël Maison, professeur de droit public à l'université Paris Sud. Son intitulé « Palestine, le droit international à l'épreuve de l'impunité ». De quoi agacer la droite locale, élu républicain, centriste et macroniste, ayant publié un communiqué demandant à la faculté d'annuler la conférence. L'événement a bien eu lieu et Cyriane s'y est rendue pour discuter accès à l'information et mobilisation étudiante avec Rima Hassan.
On a eu de la chance.
Ça se presse devant l'amphi B8. Dans la file d'attente, il y a de tous les âges, mais principalement des étudiants et étudiantes. La Palestine, c'est un sujet qui mobilise dans les universités, et ce pour plusieurs raisons, d'après Rima Hassan, la conférencière de ce soir.
Je crois que la cause palestinienne, elle a beaucoup été portée par les mouvements étudiants parce qu'ils ont eu accès justement à tout ce qui a été partagé et documenté par les Palestiniens, parce que ça a essentiellement été documenté par leur téléphone et diffusé sur les réseaux sociaux. Je crois aussi que les mobilisations étudiantes ont toujours historiquement été les pionnières sur des questions internationales et même sur des questions nationales. Mais si on se réfère à la guerre du Vietnam, si on se réfère à la question de l'apartheid, c'est quand même souvent partie justement de ces mobilisations étudiantes et elles imposent un rapport de force qui est extrêmement important dans nos sociétés. Et les mobilisations étudiantes, elles sont assez efficaces parce qu'elles se centrent justement sur leur périmètre et donc notamment sur la question du boycott académique. Et donc le rapport de force de la société civile, pour moi, est nettement plus intéressant à investir que d'aller quémander de quelques politiciens des prises de position qui, de toute façon, je pense, ne viendront pas parce qu'ils sont mieux informés que vous de ce qui se passe. Ceux qui sont au Parlement européen, ceux qui sont dans les commissions, ceux qui sont au Conseil, ils sont mieux informés que nous tous de ce qui se passe. On leur livre très régulièrement les rapports internationaux, etc. Donc, ils sont au fait de tout ce qui se passe et donc c'est aussi en pleine conscience qu'ils ne prennent pas des décisions qu'on attend d'eux.
À la sortie de l'amphi, Tamari et Gabin, élèves en licence d'histoire de l'art, m'explique comment Yael s'informe sur le conflit.
Malheureusement, je pense, mes informations, c'est ce que j'ai en fait sur mes réseaux sociaux. Je trouve que ça nous permet d'être face à une information qui est amenée par des personnes concernées. Après, j'essaie de suivre des personnes où on voit que sur le sujet, ils savent sourcer, etc.
Moi, je pense que aussi, malheureusement, mes sources sont trop limitées. Je regarde un peu la télé, mais on sait que malheureusement, les informations à la télé, elles sont quelque peu filtré. Mais sinon, à côté de ça, j'essaye de me renseigner forcément sur les réseaux sociaux avec quelques comptes connus et quelquefois le journal aussi. Mais ça reste toujours des infos qui sont trop filtrées. Enfin, ça reste seulement des infos essentielles et les faits importants, peut-être, ils sont trop peu méconnus.
Pour Rima Hassan, c'est évident. Si l'on veut comprendre la situation actuelle, il faut avant tout raconter son passé, détaillé tout au long de la soirée.
Merci Cyriane pour ton reportage. Pour approfondir le sujet, l'entretien en version longue avec Rima Hassan sera bientôt disponible sur le site de la radio. Plus qu'une semaine avant la clôture des inscriptions de Rennes sur roulette, l'événement aura lieu cette année les 24 et 25 mai, faisant de Rennes la capitale du roller pour deux jours. Pendant ces deux jours, vous pourrez retrouver courses, initiations, randonnées, épreuves freestyle et spectacles, en mêlant activités ouvertes à toutes et tous et sport d'élite. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu'au 15 mai. Les organisateurs et organisatrices de l'événement se réjouissent de l'augmentation des inscriptions en hausse par rapport à l'année dernière.
Ça roule. Merci Romain pour ton flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cheveux courts, laissant apparaître de belles boucles d'oreilles dorées. Aude Chalemel-Durosier est programmatrice ado-adulte et coordinatrice des pratiques amateurs de la MJC La Paillette. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes venue nous parler du Festival des Envolées qui a lieu dès vendredi et jusqu'au 25 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement, revenir à sa genèse peut-être ?
Ah, alors, à sa genèse, il y a 43 ans, je n'étais pas là. mais en fait, le Festival des Envolées, c'est le moment attendu de tous les adhérents et adhérentes de La Paillette qui se produisent sur scène ou aux abords de la paillette et qui donne lieu à montrer leur création de l'année, puisque les ateliers dans lesquels ils s'inscrivent sont des ateliers de création, et que ce soit en théâtre, en danse, en chant ou en art plastique, l'objectif c'est de produire, de créer un spectacle ou une forme qui sera jouée devant un public.
Pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant cette pratique artistique amateur ?
Parce que c'est un endroit à la fois d'expression, d'émancipation, de liberté, et puis aussi un endroit où, je crois, on apprend le commun, les autres, le vivre ensemble, et puis où on s'informe aussi, puisque à travers les sujets des spectacles ou des thématiques qu'on propose au fil des années, l'idée c'est de creuser un angle. Alors on est loin d'être des journalistes, mais en tout cas l'idée c'est de creuser quelque chose qui agite la société, et que ce soit historique ou contemporain. Mais en tout cas voilà, c'est un endroit d'apprentissage aussi.
On va parler de l'angle de cette édition, mais en parlant de contenu, vous direz qu'ils ont quoi de différent, ces spectacles construits par des amateurs ? Est-ce que justement c'est des sujets différents qu'on ne voit pas forcément dans des programmations plus professionnelles ? On a eu un petit bête, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est des sujets différents ? Est-ce que c'est peut-être une proximité différente avec le public ?
Alors, je pense que oui, il y a une proximité qui est un peu différente avec le public, puisque là, l'idée, c'est que sont sur des plateaux des gens qui vont pas, ou des jeunes qui vont pas forcément, qui n'ont pas forcément une pratique de spectateur-spectatrice, ou qui en ont une, enfin peu importe, mais où leurs entourages n'en ont pas forcément non plus, et où du coup ça attire aussi ces publics-là, c'est-à-dire qu'on, des fois c'est plus facile de pousser la porte d'un théâtre pour aller voir un copain, un frère, une sœur, un oncle ou une grand-mère, que de se dire qu'on va aller voir, on va pousser la porte d'un théâtre pour aller voir des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça facilite, c'est facilitateur en tout cas.
Donc la thématique cette année, c'est la fabrique du mensonge. Mm. Qu'est-ce que ça englobe ? Pourquoi ce choix ?
Alors ça fait depuis l'année dernière qu'on propose une thématique commune à l'ensemble des ateliers. L'année dernière on était sur le sport à tout prix, donc voilà. Et puis cette année on est parti sur la fabrique du mensonge, donc c'est des thématiques qu'on choisit 2 ans en avance. Okay. Et en fait on s'est dit qu'il y avait quelque chose dans l'air du temps.
Vraiment. Je vois pas pourquoi vous dites
non,
ça.
Non, pas du tout. Qui pouvait être intéressant à creuser. Et puis la fabrique du mensonge, c'est très large, parce que l'idée de la thématique aussi, c'est pas d'enfermer les 60 ateliers et de leur dire, bah maintenant vous imaginez quelque chose dans un seul axe. Là, ils peuvent à la fois aborder des petits mensonges jusqu'aux grands mensonges. Ça passe de, on va traverser du Marivaux et y en a qui se sont penchés sur la théorie du complot, les fake news, JFK. Enfin voilà, il y a tout un, ça
on va de, pas mal de l'infidélité aux infox, quoi.
C'est ça, on va de l'infidélité aux infox. Je vais garder la phrase aussi, elle est pas mal.
Et du coup, bah, on va commencer bien dans les infox, je crois, j'ai cru comprendre, avec les étudiants dès ce week-end et un spectacle qui s'appelle La Fabrique du mensonge.
C'est ça, c'est le premier spectacle du festival, donc vendredi soir. Il a été mis en scène et co-écrit par Falco Lesquier de la compagnie Le Bestiaire Collectif, qui est une compagnie rennaise. Et Falco a proposé à son groupe d'étudiants de se plonger dans les théories du complot et d'écrire ensemble, à partir de leurs recherches et de moult textes qu'ils ont pu glaner ici et là, allant du roman au récit journalistique, documentaire, voilà. Et ils ont écrit collectivement cette pièce qui est, alors je ne l'ai pas vue, je la découvrirai, mais qui aborde la question de en quoi les fake news agissent sur nos démocraties. Voilà. Vaste sujet. Je pense qu'il y a de quoi faire grincer des dents.
Et j'ai cru voir passer aussi un JFK, un nom de spectacle avec JFK dedans.
C'est ça.
Un secret américain.
C'est ça. Alors là, c'est un atelier adulte encadré par Laurent Mazet, qui travaille lui aussi à partir d'écriture de plateau. Donc c'est pareil, il amène de la matière et à partir d'improvisation, il travaille à l'écriture d'un spectacle. Donc il n'y a pas de pièce éditée en amont. Et donc ils se sont plongés sur l'affaire JFK et sur cette figure et voilà comment ça avait agité les États-Unis, toute son histoire, je dirais toutes ses histoires avec des S. Voilà, donc je pense qu'il va... Souvent, Laurent propose des spectacles qui sont sous forme de tableau pour proposer un peu un patchwork d'un sujet et nous donner un peu un vaste panel d'angles d'approche, à la fois drôle. Enfin, il y a souvent quelque chose de très rythmé et de très drôle dans l'approche, même si le sujet n'est pas forcément humoristique au départ.
Et on a parlé de Laurent et de Falco, si je ne me trompe pas, qui sont des professionnels du théâtre ou des formateurs de la...
Non, c'est des professionnels du théâtre, c'est des comédiens, comédiennes, metteurs en scène, metteuses en scène pour la plupart de nos intervenants, qui ont encore aujourd'hui pour la plupart une activité en compagnie, donc ils sont ou interprètes ou metteuses en scène, ou alors qui ont eu par le passé des activités en compagnie et puis qui aujourd'hui se dédient principalement à la transmission et à la création avec des amateurs. Mais oui, c'est le fer de lance à la paillette. L'idée, c'est que tous les ateliers adultes soient encadrés par des professionnels.
Super intéressant. On n'a pas leur témoignage là, mais ça doit être un exercice un peu compliqué, du coup, en tant que professionnel, de se mettre face à des gens qui ne sont pas professionnels, des amateurs et amatrices, et de leur dire « Ok, on fait des répétitions, donc je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est rythmé toutes les semaines, pendant toute l'année ?» C'est du coup... au sein des activités que vous proposez?
Oui, alors nous, la base, c'est que quand même les répétitions ont lieu toutes les semaines.
Ouais.
Il y a quelques ateliers qui ont un format particulier avec des répétitions que en week-end. Souvent, les ateliers qui ont un rythme de répétition de 2 heures par semaine proposent quand même 1 ou 2 week-ends dans l'année pour se concentrer et condenser le travail. Et puis après, je pense, alors il faudrait les interroger, mais je pense que l'intérêt qu'ils y trouvent, c'est aussi qu'il y a une force créative en chacun, chacune d'entre nous, et que travailler avec des non-professionnels permet aussi de montrer qu'on peut faire un travail qualitatif et qui n'est pas juste de la formation ou de l'animation, malgré le... Enfin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment... être dans un acte de création sur un temps et dans des contraintes qui sont celles de l'atelier et de la répétition hebdomadaire, mais en tout cas d'être à cet endroit-là.
Donc il y a 30 spectacles au programme, si je ne me trompe pas, on ne pourra pas parler de tous.
Non.
On a parlé d'un spectacle ado, d'un spectacle adulte, peut-être vous pourriez nous parler d'un spectacle enfant.
Oui, alors sur les enfants, on a un atelier de Maëlle Diraison qui encadre plusieurs ateliers à la paillette, donc je vais éviter de me tromper dans l'âge. C'est un atelier pour les 16 ans, donc ils sont en première en général, ces jeunes-là. Et donc là, ils ont décidé de monter le spectacle ADN, qui est un texte de Denis Kelly, et qui c'est un groupe de jeunes qui... un d'eux a disparu. On sent qu'il s'est passé quelque chose de pas très cool dont les jeunes veulent ne pas trop parler et dont ils sont un peu responsables. Et donc, ils essayent de masquer la disparition de la personne, enfin, du jeune. Et ça va de mensonge en mensonge. Et en fait, il s'avère au final que c'est une histoire de harcèlement. Et puis que le jeune a disparu, enfin a fui un peu ces relations toxiques. Voilà.
D'accord. Donc des spectacles de théâtre, mais je crois qu'il y a aussi de la danse et du chant.
Il y a aussi de la danse. Le dernier week-end du festival sera dédié à la danse, où les 200 danseuses et danseurs de la paillette proposeront donc 4 représentations au total. Donc ça, c'est le 21 et 22 juin. On a aussi des concerts de chant gratuits à la Chapelle Saint-Cyr, qui est la maison de retraite qui se trouve en face de la Paillette, et puis dans le parc. Et puis, on a également une exposition d'art plastique, les ateliers d'art plastique qui exposent tous leurs travaux de l'année dans la galerie du Lavoir. Et donc ça, c'est visible tout le long du mois de juin sur les heures d'ouverture du Lavoir.
Donc au théâtre, au Lavoir de la MJC, sur le parc Saint-Cyr, et je crois qu'il y a aussi des choses hors les murs.
C'est ça, on propose des choses hors les murs pour la deuxième année. On propose aux ateliers volontaires et puis aux acteurs de proximité avec qui on travaille, aux acteurs locaux, d'accueillir un groupe pour une représentation. Donc là, ce sera le cas pour quatre groupes. A priori, il y aura un groupe qui jouera à la prison de Vezin-le-Coquet. Donc ce ne sera pas une représentation ouverte à tous et toutes, mais en tout cas, voilà. Il y aura une représentation un groupe qui jouera à la maison de quartier de Villejean, un groupe à la Maison Bleue et un autre au Norrois. Voilà, donc c'est aussi l'idée de s'exporter un petit peu. Ouais.
Et on ne peut pas ne pas parler du coup de la fête de fin de saison.
Eh oui.
Le 27 juin, qu'est-ce qui va se passer?
C'est ça. Alors la fête de fin de saison, l'idée c'est de se retrouver toutes et tous autour d'un verre, autour d'une auberge espagnole. On propose depuis plusieurs années un karaoké qui permet à toutes et tous de se libérer. Donc là, on propose au groupe de nous faire une playlist à venir chanter ensemble en fonction de leur spectacle. Donc il y a des choses qui vont pouvoir surgir, des petites surprises. Et puis cette année, pour un petit clin d'œil, on lance une tombola loto. On ne sait pas encore comment on va l'organiser, mais tout ça va arriver. Pailletée, l'idée, c'est qu'il y ait des lots autour des spectacles et de la thématique de la fabrique du mensonge et des paillettes qui soient à gagner. Voilà.
Yes. Un petit mot sur les tarifs, parce que je crois que c'est très, très accessible.
C'est ça. On est sur un tarif unique à 4 euros, avec une majoration d'un euro le jour J. Mais sinon, si vous réservez dès maintenant en ligne, c'est 4 euros.
Donc sur le site de la Paillette.
Sur le site de la Paillette.
Et puis pour finir, un petit mot sur la Paillette peut-être. Comment se porte la MJC? Est-ce qu'il y a des choses à annoncer pour la saison prochaine déjà?
Oui, alors tout va bien. on est sur le fil jusqu'à mi-juillet. Des petites choses à annoncer. Vous dire que pour les adhérents de cette année, les réinscriptions aux ateliers ouvrent le 2 juin. Pour les nouveaux et les nouvelles qui souhaiteraient nous rejoindre à la rentrée, ce sera à partir du 25 juin. Et puis, petite date à mettre dans vos têtes et dans vos agendas, c'est celle du dimanche 21 septembre, qui sera la journée de lancement de la Paillette et de l'ouverture de saison dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine. Et ce sera aussi l'occasion de fêter nos 30 ans d'installation au Lavoir, dans le bâtiment du Lavoir. Voilà, on aura l'occasion de vous dévoiler un peu le programme de cette journée-là.
Bah oui, on en reparlera dans 6 heures avant minuit. Obligé.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Je rappelle que les envolées, c'est dès ce vendredi et jusqu'au 25 juin. Merci à vous.
Merci.
6 heures avant minuit.
Alors Eva est partie, sniff sniff, mais Romain prend le relais avec une chronique de découverte musicale. Un jour, un style. À toi Romain.
C'est ça, tout est dans le nom. Hein. Chaque chronique, je vous fais découvrir un style de musique. Pour cette première, je vous emmène au Japon, on découvre la city pop. La city pop, elle émerge au Japon à la fin des années 70. Le pays est en plein boom économique et démographique. La culture occidentale, notamment américaine, arrive au Japon et les artistes s'en emparent. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre plein de genres et les mélanger. Dans la city pop, on retrouve des éléments de jazz fusion, de funk, de disco, des musiques caribéennes et bien sûr de la pop. Ces influences multiples se mêlent à la musique traditionnelle japonaise. Vous prenez tout ça et vous obtenez des morceaux comme Nights de Masayoshi Takanaka. À Alors Masayoshi Takanaka, c'est un peu une légende au Japon. Il a sorti des albums cultes comme Seychelles ou Brazilian Skies. C'est un vrai showman, guitariste génie. Il est connu pour performer avec des guitares hyper loufoques. Par exemple, une guitare intégrée à une planche de surf ou encore une autre posée à plat avec un petit train électrique en marche dessus.
Normal.
Voilà, c'est un vrai personnage et il rayonne aussi par la qualité de sa musique, bien sûr. Ce que j'adore dans la City Pop, c'est le côté très technique des musiciens et musiciennes. Il y a des lignes de basse incroyables, des solos de guitare ou de saxophone de partout, des fois au milieu des morceaux, comme sur Hope from Sad Street de Hanri. Cet extrait donc de Hanri s'est tiré de son album Timely, sorti en 1983. À mes yeux, c'est le meilleur album de City Pop. Si vous devez écouter un album dans ce genre, c'est celui-là.
C'est pas une ânerie, c'est ce que... Désolée, je t'ai oublié. Excuse-moi, vas-y.
Il n'y a pas de souci.
C'est pas une ânerie, cet album d'Hanri.
Pas du tout.
Bon, okay.
11 titres, 46 minutes, le meilleur de la City Pop. Hanri a une voix incroyable et la production est géniale. Je vous mets un autre extrait pour le plaisir, c'est Windy Summer. Dans les années 90, la City Pop va malheureusement décliner. De nouveaux genres viennent la remplacer, notamment le hip-hop. Mais dans les années 2010, le genre émerge à nouveau grâce aux réseaux sociaux. La Gen Z découvre la City Pop, se l'approprie en créant de nouveaux styles comme la Vaporwave ou le Future Funk. Des initiatives comme les compilations du DJ japonais Notoya permettent de mettre en lumière la richesse oubliée du genre. Je vous laisse avec un dernier extrait, probablement le morceau le plus populaire dans ce genre, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est Plastic Love de Maria Takeuchi.
Bah merci Romain, ça donne envie de danser.
Bah ouais.
Tu seras de retour bientôt pour nous faire découvrir un nouveau style.
Exactement.
Super.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Allô ? Personne au bout du fil aujourd'hui, nous n'avons pas de message sur notre répondeur. Mais n'hésitez pas, laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35 pour nous faire un retour sur nos chroniques, nos reportages, nos interviews, nous donner des idées de sujets, nous dire que vous nous aimez, tout ce que vous voulez. 02 30 96 25 35, on diffuse vos messages à la fin de cette émission. Merci Cesse pour la technique, on vous retrouve lundi parce qu'on fait le pont. Oui, salut.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.